gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
C'est Jean-Yves qui devait faire l'ouverture, mais il a oublié.
Ah oui, bonsoir. Eh oui, vous l'aurez remarqué, donc Clara n'est pas présente.
On n'est que deux et on ne sait plus qui fait quoi.
Ce qui fait que c'est un peu la panique. Non, pas la panique, mais en tout cas, voilà, il faut lancer et en même temps parler, j'y arrive pas. Eh bien, bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes bien donc sur le 102.2 de la bande FM sur radiocanu.org aussi, ça fonctionne. Et donc Fab dans les studios.
Ben bonsoir et bonsoir Jean-Yves à la technique. Et des bisous à Clara qui n'est pas là ce soir.
C'est tout à fait ça.
Mais qui reviendra vite.
Mais évidemment. Et ben on va pas plus traîner que ça et on va pas raconter plus de bêtises que ça. Et c'est Fab qui commence de suite à nous causer d'enfants à la rue, d'enseignement privé gavé.
Ouais, c'est des choses qui s'entrechoquent dans l'actualité. Alors dans une enquête de longue haleine, alors je vais citer plein de gens, mais excusez-moi, quand il y a une enquête qui est faite par des journalistes, il faut les citer. Bérénice Gabriel, Mathilde Guanec, Donatien Huette, Manuel Magrez, Maltine Mathieu, et David Perrotin, donc ils sont tous journalistes à Mediapart, pour être précis, ont réussi à retrouver tous les financements en cadeau qui ont été faits aux établissements privés du secondaire. Rappelons-le quand même qu'ils sont à 96% catholiques et ces financements ont été donnés par les régions de France. Voilà.
Tout à fait.
Alors rappelons hein, que ces versements sont en plus des versements légaux et obligatoires. Parce que oui, il y a une délégation de services publics qui est faite aux établissements privés. Donc il y a des choses que les régions doivent régler, payer. C'est ce qu'on appelle les frais d'internat. Mais par contre, elles sont pas obligées de payer le superflu. Ça, c'est plutôt le superflu, les 1,2 milliards. Voilà. Donc entre 2016 et 2023, c'est plus de 1,2 milliard d'euros, hein, comme je le disais, qui sont allés dans les poches de l'enseignement privé secondaire. 1,2 milliard.
En l'espace de 6 ans.
Ça fait 6 ans. Ouais, en gros, 2016, 2023, 6, 7 ans. Voilà.
C'est quoi, 200 millions, quoi.
Une paille. Voilà. Rien que ça. Donc, et je vous le donne en mille, hein. Quelle est la région qui a versé le plus?
Attention.
C'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et oui, ouais. La fameuse région Aura. Alors pour ceux qui sont nuls en géographie et qui nous écouteraient, Lyon est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. Voilà. Et oui, c'est celle qui est donc présidée par Laurent Wauquiez. Mmh. C'est le mec que la droite, elle dit, il faut que ce soit lui qui aille pour la présidence parce que voilà.
Un homme de droiture. Et qui aime bien manger avec des invités à 1100 balles par tête.
Ouais, aussi. Bon, sur les frais de la région aussi. Bon, ok. Mais c'est le gars qui, quand même, aussi, vend debout. Contre les aides versées aux religions. Ah non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. C'est le monsieur qui est vend debout contre les aides versées aux musulmans. Voilà, hein, les autres, ça va. Monsieur Wauquiez aurait des tendances légèrement racistes que ce ne serait pas tellement surprenant. Mais voilà. C'est donc, selon l'article, pas loin quand même de 261 millions d'euros qui sont partis en cadeau pour ces établissements au nom de la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est son petit nom, Aura. Juste au-dessus des Pays de la Loire, hein, qui avec ses 234 millions, deux régions tenues par des gens très 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 à droite. Voilà. Et très catholique aussi, accessoirement.
C'est pas aussi eux qui souvent se positionnent en chevalier de la laïcité?
Si, alors sauf quand c'est les cathos.
Ah oui, donc en fait ce ne sont pas des laïcs.
Non, ce sont des
religiophiles qui se cachent sous couvert et qui déversent leur haine envers les autres religions sous couvert de laïcité.
Alors ça portait un nom à une époque, on appelait ça des croisés.
Ah ouais.
C'est-à-dire qu'ils se battent au nom d'une religion. Et donc, bon, c'est aussi quand même le pays de la Loire et région Auvergne-Rhône-Alpes, des gros réactionnaires, hein, parce qu'il suffit de suivre un petit peu tout ce qu'ils déclarent ces deux gens-là. Voilà. Donc, est-ce qu'on doit quand même rappeler ici que Wauquiez voulait, rappelons-le, avec l'appui du mouvement de Zemmour Reconquête, couper les subventions aux associations féministes. Parce qu'il ne fallait pas dépenser l'argent de la région à tort et à raison. Ouais, t'es sûr là ? Bon, alors, évidemment, il voulait aussi couper les aides aux personnes démunies. Parce que la région, elle n'est pas là pour ça, elle n'a pas de sous. Je le redis, hein, 261 millions d'euros qui ont été versés pour des agréments. Voilà. Une partie des aides a d'ailleurs été coupée, hein, pour info. On sait maintenant où l'argent est allé. Hein. Elle est allée engraisser l'Église catholique, parce qu'il faut quand même dire ce qui est, à un moment donné. Alors, dans l'article, hein, il rappelle, je cite, « Le privé dispose de financements complémentaires bien à lui. Les frais d'inscription des familles, les dons, le mécénat, parfois. Vous savez, parce qu'il y a plein d'établissements privés qui ont du mécénat, notamment de la famille Leclerc, qui est une des grandes familles qui a du mécénat catholique. Surtout, il sélectionne ses élèves et échappe à l'essentiel des contraintes qui pèsent sur le public, qu'il s'agisse de mixité sociale ou d'accueil du handicap, parce qu'ils sont soumis aux mêmes règles, au point que certains observateurs parlent désormais de séparatisme scolaire, tout simplement. On n'est donc pas là face à des établissements en difficulté, hein ? On va arrêter tout de suite le délire. Mais aussi, plus précisément sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'article nous rappelle, les largesses de Laurent Wauquiez sont telles qu'elles ont engendré cette statistique détonnante. À leur paroxysme, en 2020, les bonus distribué au lycée privé d'Auvergne-Rhône-Alpes, 51 millions d'euros, ont représenté presque l'équivalent des sommes déjà versées par la loi pour leurs frais de fonctionnement, 57 millions d'euros. Voilà. Dans son fief électoral de Haute-Loire, un établissement comme La Chartreuse a par exemple bénéficié de plusieurs centaines de milliers d'euros pour sa modernisation. Création d'un amphithéâtre, Leaning Lab, enfin vous voyez, c'est sympa, avec une bénédiction, elle est bonne celle-là, des locaux par un prêtre à la clé, oui, parce que, faut pas déconner, laïcité, argent de la région, bénédiction d'un prêtre, tout va bien, à laquelle Laurent Wauquiez a d'ailleurs participé,
oh, c'est étonnant,
allant jusqu'à faire le signe de croix, un geste étonnant, pour ce chantre d'une stricte laïcité, je cite l'article. Voilà, donc on sent quand même bien le... comment dire,
le focus,
oui.
Déjà,
voilà,
je
déjà.
Pense qu'on peut commencer
et
par
puis
ça.
Le détournement d'argent aussi. Public, accessoirement. Mais bien sûr, c'est légal parce que c'est la loi qui permet de faire ça. Hein, donc, ouais. C'est un petit peu comme l'optimisation fiscale. Vous voyez, c'est purement amoral et dégueulasse, mais c'est légal. Alors, amis auditrices et auditeurs, soyons clairs. Moi, personnellement, je suis pour la mort de l'enseignement privé, mais aussi des religions au passage. Hein, donc, pour être très clair, je suis pas leurs amis. Donc, tu vois. Donc, autant vous dire que de savoir qu'une part de mes impôts en Grèce, les religieux, bah ça m'a fait un peu gerber quand même. C'est vraiment, ouais, ou quand même, faut pas déconner. Mais ce qui est inquiétant, c'est comme le souligne l'article, attention, accrochez-vous, ce chiffre de 1,2 milliard est stupéfiant, réagit le député Paul Vanier de la France Insoumise. L'un des parlementaires, pourtant, les mieux informés sur le financement de l'école privée, parce qu'en 2023, avec un collègue macroniste, il avait quand même piloté une mission d'information sur le sujet. Et les deux hommes avaient cherché ces données sans succès. Parce que les régions ne l'avaient pas remonté. Voilà, on sent le contrôle, hein.
C'est vrai. C'est ça.
Donc, alors, juste parce que je ne vais pas vous donner tout l'article, comment les journalistes ont fait le travail ? Ben, ils ont fait ce qu'on appelle un travail de journalisme citoyen, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont allés reprendre les comptes de toutes les régions, et puis ils ont fait du ligne à ligne. C'est pour ça qu'ils étaient autant pour faire cet article, parce qu'ils ont fait du ligne à ligne pour savoir qui touchait l'argent, les subventions et tout. Donc, on peut être quand même assez certain que le chiffre qu'ils annoncent, c'est vrai. Voilà. Alors oui, parce que la transparence en France, hein, c'est rare et pas très courant quand même, hein, faut quand même s'en rendre compte. Il faut rappeler, hein, que les contributions que les régions sont légalement contraintes et qui couvrent les frais de fonctionnement, elles sont légales. Donc c'est par exemple le chauffage, l'eau, le matériel pédagogique obligatoire. Et en fait, on parle du forfait d'externat versé à parité entre le public et le privé. Mais les subventions facultatives, elles financent de l'embellissement. Voilà. Travaux sur le bâti, agrandissement, rénovation énergétique, internat, ascenseur, tout ça, quoi. Ça, c'est pas obligatoire, hein, je vous le rappelle. Puis je vous rappelle que c'est des lycées qui touchent des subventions par ailleurs. Voilà. Équipement pédagogique aussi. Des tablettes numériques, des manuels qui, eux, ne devraient pas être payés comme ça. Parfois, des aides sociales, des bourses, la cantine, qui ne devraient pas être payées comme ça. Donc voilà. Du coup, ces enveloppes d'argent public sont là, en fait, pour rendre finalement le privé toujours plus attractif et concurrentiel. Et donc, orienter les familles vers ces établissements. Séparatisme scolaire, tout ça, hein, ça vous parle ?
Ouais.
Je vais pas ici quand même vous résumer l'ensemble de l'article, parce que d'abord je peux pas et puis ça serait beaucoup trop long, et qu'il est très long, enfin volontairement, parce qu'il est très détaillé. Je vous invite à aller le consulter sur Mediapart. Mais il est clair que la dérive réactionnaire et droitière se sent aussi dans l'attaque frontale contre l'école publique et pour une mise en avant des établissements religieux. Voilà.
Oui, parce que là aussi, en fait, on a souvent tendance à oublier, enfin, j'en sais rien, être de droite, c'est je sais pas quoi. En fait, être de droite, c'est aussi justement ce genre de choses-là.
Oui,
c'est-à-dire,
tout à fait.
C'est tout privatisé, et il reste aux pauvres ce qui restera, quoi. Et puis, voilà.
Alors, j'en profite parce que, comme tu abordes ça, je l'avais pas écrit, mais maintenant que j'y pense, la quatrième région qui a versé le plus à des établissements privés, c'est celle qui est dirigée par Mme Delga. Vous savez, cette socialiste qui voudrait être première ministre.
Ah oui.
Voilà. Donc, il y a peut-être aussi être de gauche et catholique qui peut rentrer dans l'équation. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais allez quand même pas m'accuser de la montrer du doigt. Voilà. Alors, il y a quand même des trucs qui ça se croise quand même dans l'actualité par moment. Pouf, comme ça. Pouh là, disons. Alors, hasard du calendrier, en même temps que cette enquête, hein, on apprend par l'UNICEF et d'autres associations que 2000 enfants dorment à la rue tous les soirs et plus de 45 000 vivent dans des logements insalubres en France. Je précise que ce chiffre est sous-estimé parce que l'UNICEF ne peut pas recenser les mineurs sans papier. Parce que ceux qu'ils arrivent à recenser, c'est les mineurs avec papier. Donc en fait, ce chiffre, il est forcément minoré. Mais c'est un chiffre minimal, ce qui est donc même déjà énorme. 2000 enfants qui dorment à la rue, je sais pas, moi ça me dit, c'est beaucoup quand même, non ? Dans un pays comme la France, 6e puissance économique mondiale, voilà. Ce faute hein, d'investissement réel, d'aide et d'aide spécifique dirigée vers ces populations spécifiques. Voilà, comme le rappelle tout simplement l'UNICEF qui rappelle que être pauvre, c'est un statut. C'est-à-dire qu'en fait, on choisit pas d'être pauvre, hein, souvent. Mais par contre, eh ben, on a du coup des besoins spécifiques auxquels, normalement, charte des droits de l'enfant, l'État doit venir pallier pour éviter que les enfants soient à la rue. Oh, je vous rappelle que c'est la charte des droits de l'enfant, la France l'a signée, hein, voilà. Et la situation est connue hein, quand même depuis longtemps, mais le nombre d'enfants à la rue ne cesse d'augmenter. Alors l'UNICEF explique quand même que 2000 enfants, bah, c'est deux fois plus qu'à 10 ans, tout simplement. Ce qui est quand même juste effarant, hein. Rappelons que vivre à la rue est déjà extrêmement difficile pour un adulte, qu'on peut pas dire que c'est invivable. Alors pour un enfant, voilà, c'est des enfants qui sont exposés à la violence, aux violences sexuelles, au risque de maladie, de mort prématurée du fait d'accidents ou autres, etc., etc. Donc on est quand même dans la mise en danger d'enfants, hein ?
Oui.
Voilà, tout simplement.
Oui, donc, mais la France est la patrie des droits de l'homme.
Oui,
et pas le reste. Non, c'est pas ça.
Ni des femmes, ni des enfants. donc le gouvernement démissionnaire. Ouais, alors ça aussi, le gouvernement démissionnaire qui travaille toujours. Voilà.
Non, mais ils sont forts parce qu'ils sont arrivés à imposer.
Un langage. Oui, en fait, le gouvernement, point. Parce qu'en fait,
oui, c'est
il
ça,
est,
en fait, parce qu'il continue voilà. De passer des trucs, il continue de passer des décrets, etc.
Alors, c'est Gabriel Attal qui s'y est collé quand même pour donner l'explication. Il explique que cette situation n'est pas de sa faute. Bah évidemment, hein. Et que de toute façon il manque de moyens financiers pour faire plus que ce qui a été mis en place et qui clairement n'a pas suffi. Voilà. Alors les associations elles soulignent que c'est quand même bien la réforme des lois autour du logement hein, obligatoire, les lois anti-squat et aussi les lois qui permettent de loger des logements insalubres qui permettent de louer des logements insalubres qui d'ailleurs ça a été fait par décret même pas passé par le Parlement qui entraîne quand même cette situation hein. Le dit peut-être pas non plus dédouaner de tout parce que c'est un tout petit peu votre politique autour du logement qui fait ce qui arrive là donc bien entendu si vous couplez ça au chômage et à la précarité vous arrivez à cette situation d'autant plus qu'on a cassé en parallèle, le droit du travail, ce qui fait que y a des gens qui se retrouvent mis à la rue sans boulot en quelques heures. Et donc, du coup, vous créez des situations où les enfants se retrouvent entraînés dans la pauvreté et la précarité de leurs parents. Mais les associations, elles rappellent une chose qui va, vous voyez pourquoi je vais croiser les deux sujets. Avec 150 millions d'euros, aucun enfant ne dormirait dans la rue. Voilà.
C'est marrant, ça. On parlait de combien avant ?
1,2 milliard. Ah ouais. Et avec 800 millions supplémentaires, attention, on sort tous les enfants des logements insalubres. Voilà.
Bah, je crois qu'on y est. Hein.
Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a de l'argent. Voilà. Et bon, moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser que si les régions, elles pouvaient donner 1,2 milliard pour changer les statuts de la Vierge sur les établissements religieux et engraisser les religieux, il y a fort à parier hein, qu'il n'est pas si difficile de trouver de l'argent pour loger des gamins qui sont aujourd'hui à la rue. Enfin, moi, je sais pas, j'ai fait des maths. Je me dis, ça doit pouvoir marcher. Alors, posons quand même les choses clairement. C'est bien la protection des riches qui fait que les enfants dorment à la rue. C'est la protection des propriétaires. Propriétaires qui, des fois, louent des choses totalement insalubres, dégueulasses, qu'ils n'entretiennent pas. Mais on a préféré, en France, protéger les propriétaires plutôt que les locataires. C'est le capitalisme, dans son cynisme, le plus poussé. C'est-à-dire, c'est de dire le propriétaire a toujours raison. Toutes les lois ont été orientées comme ça depuis François Hollande. Parce qu'on va arrêter de dire que c'est que le gouvernement Macron, c'est pas vrai. Parce que déjà sous François Hollande, les premières lois qui permettaient d'expulser plus facilement et qui permettaient de louer des biens insalubres, elles ont existé. Donc, c'est pas pour dire qu'ils sont tous pourris, c'est pour dire qu'il y a une continuité de la protection des propriétaires. Donc il faudra un petit peu redescendre sur terre et arrêter de croire que le nouveau Front Populaire qui a François Hollande dans ses rangs serait extrêmement révolutionnaire. Voilà. Et quand on voit que... Parce que j'aime bien rappeler deux, trois faits.
Tu fais bien.
Et quand on voit que dans une métropole comme celle de Lyon, tenue entièrement par le nouveau Front Populaire, bah oui, parce que c'est les Verts, et c'est les FI, et c'est le PS, et c'est les communistes, et ben en fait, il y a des enfants qui dorment à la rue, et on le sait. Et il y a une expulsion qui est prévue encore là, avec potentiellement 70 mineurs sans papier qui risquent de se retrouver encore une fois à la rue. Alors on peut donc déduire assez simplement qu'il faudra quand même un petit peu plus qu'une loi pour changer les choses. Il va peut-être falloir aller récupérer les logements vides. Et peut-être que ça va demander d'être un petit peu moins gentil que d'attendre que la loi fasse tout. Et que décidément, hein, finalement, les étiquettes politiques sont là hein, pour vendre une marchandise, pour prendre des places et le pouvoir, plus que pour appliquer réellement une politique. Voilà. C'est mon côté anarque qui ressort des fois comme ça. Je sais pas, moi, quand je dis 2000 enfants à la rue, ça m'énerve tellement que j'ai plus envie d'être sympa. Enfin, il y a des gens qui arrivent, moi, j'y arrive plus. Donc voilà. Là, j'arrive plus à dire c'est pas grave, tout va bien, oh là là, c'est pas de leur faute. Si, c'est de leur faute, on va arrêter les conneries, hein. D'ailleurs, je l'avais pas mis dans ma chronique, parce que je suis pas journaliste. Juste comme ça. Il y avait un audit hein, qui était prévu, vous savez, sur le Grand Lyon, juste avant le Covid, des logements vides, tout ça, ils nous avaient promis. Puis il y a eu le Covid. Et puis, on l'a pas fait. C'est quand même dingue. Est-ce qu'on nous prendrait pas un tout petit peu pour des oiseaux?
Bah si, voilà.
Donc voilà, comme quoi, parfois, deux infos qui s'entrechoquent en disent bien plus long. Sur le conservatisme et les priorités de notre société, quand même, globalement. Et finalement, sur ses lâchetés aussi, malheureusement. Voilà. Donc, moi, je vous le dis, je ne me satisferai jamais que 2000 gamins dorment à la rue dans un pays riche. Et d'ailleurs, je ne m'en satisfais pas non plus dans des pays pauvres. Mais d'autant plus dans un pays qui a les moyens de les loger.
Voilà. Oui, c'est ça. Et qui a les moyens, en plus, à côté de ça, de filer de la thune.
Pour rénover la Vierge.
Pour rénover la Vierge. Donc, effectivement, c'est une notion de priorité. Ouais. Peut-être que tous ces politiciens sont en train d'acheter leur place au paradis. Qu'est-ce que je te dise? C'est comme ça. Ils misent, en fait, pour leur place au paradis. Bon, le jour où ils vont être secs et raides, morts, bon, ils se rendront compte, ils seront morts, donc il n'y aura rien. Donc, ça sera de la thune donnée pour les religieux.
Donc, pour rien. Évidemment, comme toujours.
Ah oui, en fait. Donc ouais. Vraiment, on nous prend un peu pour des oiseaux, tu disais. C'est mignon.
Ouais, c'était parce que je croyais que je voulais trouver un mot un peu. Et moi, ce qui est marrant, c'est que juste, je le redis, c'est il y a pas très longtemps, il y a un artiste qui a repris la complainte des canuts. Et dans la complainte des canuts, ils disent, vous portez chasuble d'or, vous savez, en parlant des religieux, ouais. Quand nous n'avons rien pour nous habiller, et ben en fait, ce serait bien que de se rappeler aussi d'où on vient comme ça et que ça fait longtemps que les religieux nous pompent la moelle. Donc voilà.
Ouais, tu voudrais dire, et aussi peut-être un peu réveiller
l'anticléricalisme.
L'anticléricalisme. Ouais, je pense qu'un jour ce serait bien que des gens qui se pensent révolutionnaires, etc., analysent un petit peu plus la position de pouvoir qu'ont les religions, et qui plus est la petite religion catholique en France, et se remettent un peu au combat et à la lutte, quoi. Ça veut pas dire tuer des gens, ça veut juste dire porter haut des mots et des valeurs et une éthique.
Voilà, exactement.
Ce serait pas mal,
chiche.
En fait. Allez, chiche. Quelle grande mission. Eh ben,
On met un peu de musique.
Ouais, allez, on y va.
C'est parti.
Alors, attends, parce que bon, on rappelle que Clara n'est pas là et que donc,
donc Jean-Yves galère,
c'est un petit peu plus foireux. Ça devrait être bon.
De retour dans l'émission La Causerie sur Radio Canyon 102.2. Ah tiens, ça continue. 102.2 sur radiocanyon.org.
Et on rappelle que Clara ne fait pas la technique ce soir.
Ça s'entend. Donc voilà, excusez-nous, hein, il y a longtemps qu'on n'a pas fait tout ça. Et donc voilà, donc vous venez d'entendre le groupe Kaamelott avec Mélissa Bonnier en featuring, et il chantait New Babylon, une chanson sur ces religions que l'on se crée, qu'elles soient celle de la religion du téléphone portable, la religion des réseaux sociaux, l'enfermement dans les certitudes. Voilà, et je trouvais que ça collait pas mal
plutôt
avec le avec ce dont on a parlé juste avant.
Effectivement.
Et Jean-Yves, c'est à toi maintenant.
Tout à fait. Aucun élan, aucun désir, que pourrais-je bien dire ? Que je chante ou ne chante pas, qu'importe. Moi, rejeté du monde, nié. Parler du sucre, pourquoi ? Avec le poison dans ma bouche. Les coups de l'oppresseur ont mis ma bouche en sang. Personne au monde pour me consoler, à qui me confier. Que je pleure, que je ris, que je meure ou que je reste. Me voilà au creux de cette prison. Espoir envolé, désir non exaucé. Je suis né en vain, c'est vrai, et ma bouche doit rester scellée. Je sais, ô mon cœur, qu'il existe un printemps, une saison pour la joie. Mais que faire ? Mes ailes sont attachées. Et je ne peux m'envoler. Mon silence perdure, je sais, et pourtant je n'oublie pas les chants. Puisque de mon cœur, chaque instant, tant de plaintes sont exhalées. En souvenir du jour glorieux où ma cage enfin brisée, relevant la tête hors la solitude, ivre je me remettrai à chanter. Je ne suis pas le faible sol qui tremble à tous les vents. Je suis afghane, il est donc légitime que sans cesse je parle en cri. Vous l'aurez certainement compris. Ce soir, j'avais envie de causer des dernières infos venant d'Afghanistan. Et vous l'aurez deviné, elles ne sont pas bonnes du tout. Hein. C'est presque... Oui.
Est-ce que je peux juste te demander ce que tu viens de lire ?
Mais oui, tu as bien raison de me le rappeler.
Pardon. Bah oui.
Oui, tu as bien raison. Je viens de lire donc Afghan de Nadia Anjouman. Je vous en dirai plus tard. Donc depuis 3 ans que les fascistes religieux, dénommés talibans, ont repris le pouvoir, tout ne fait qu'aller de pire en pire. Et quand on pense que le fond a été atteint, on peut toujours compter sur ces raclures pour continuer de creuser encore et encore. En tout cas, ils sont très bons...
je sais pas s'ils cherchent du gaz de schiste, mais ils creusent.
Mais ils devraient peut-être, je ne sais pas. Et comme depuis toujours, ce sont les filles et les femmes qui en paient le prix fort. On rappelle, après avoir empêché les filles afghanes âgées de 12 ans et plus d'aller à l'école, et aussi à de nombreuses femmes, si ce ne sont toutes, d'occuper des emplois dans les secteurs privés ou publics, y compris dans les ONG. Aussi, ils ont empêché de se promener dans les parcs publics, de fréquenter des gymnases ou des salons de beauté, ou obligé évidemment de respecter un code vestimentaire strict. Ouais. De nouvelles interdictions, fruit de la loi sur la propagation de la vertu et de la prévention du vice. Ça, c'est du nom, rien que ça.
Bienvenue au 21e siècle.
C'est ça. ont été donc publiés à la mi-août, autour du 21 août, si je me souviens bien. En effet, donc, ce jour-là, ont été officiellement promulguées 35 nouvelles lois, nouvelles règles. Et je vais vous en donner évidemment quelques-unes. Donc, les hommes seront tenus de couvrir leur corps, de leur nombril jusqu'aux genoux, lorsqu'ils sont à l'extérieur de leur foyer. Oui.
Ah oui,
un Bermuda, quoi.
Ouais, nombril, c'est-à-dire un pantalon haut.
Ah oui, un pantalon haut et sous les genoux. Parce que où les genoux ? Pardon. Et aussi, les hommes ont interdiction de tailler, de raser leur barbe, ainsi que de sauter la prière et les jeûnes religieux. Autre petite pépite. Non, je dis ça avec, mais c'est juste, je suis dépité. Bref. Les transports publics n'auront pas le droit de diffuser de la musique, parce que sinon, je pense qu'il y a une faille qui s'ouvre dans le sol et ils tombent en enfer. Pas le droit non plus de transporter des femmes si elles ne sont pas accompagnées d'un tuteur masculin. Attention, tuteur masculin qui a forcément un lien de parenté avec elles.
Donc mari, frère, père.
C'est exactement voilà. Ça. En outre, les passagers et les conducteurs sont tenus par la loi d'observer les heures de prière spécifiées. Donc il faut que tu t'arrêtes et que tu pries. Les voyages peuvent être très longs. Et pour les femmes, évidemment, la charge ne s'arrête pas là où il s'était... déjà aventuré. Donc il aurait dorénavant interdit de chanter, de réciter de la poésie ou de parler à haute voix en public. Et il leur impose aussi évidemment de garder le visage et le corps couverts à tout moment. D'ailleurs, même, je crois que je ne me suis pas noté, mais sur les femmes, les tenues des femmes, il ne faut absolument pas qu'elles soient, il faut qu'elles soient amples. Vraiment très ample, en fait, il faut qu'elle s'efface sous le tissu, on va dire.
Ouais, c'est les nouvelles, parce que des militantes afghanes dénonçaient comme étant les nouvelles burqas. C'est-à-dire, comme la burqa était connue et était vue comme un objet d'oppression, parce que c'est ce qu'il est, les talibans ont demandé à des tailleurs de faire des nouvelles tenues très amples, très, voilà, qui sont noires ou vertes d'ailleurs, et qui donnent l'impression qu'il n'y a pas de grillage. Vous savez, il y avait ce grillage, voilà. Sauf qu'elles disaient, les militantes, que c'est encore pire, parce qu'on y voit non seulement encore moins bien, mais qu'en plus on est sous une masse de tissus énorme, c'est-à-dire qu'en fait elles ont chaud, c'est lourd, et elles sont humiliées, et donc elles sont, et d'ailleurs les militantes le disaient, obligées de se courber, ce qui est quand même aussi une volonté, c'est-à-dire de ne pas pouvoir marcher droit, en fait. Voilà.
C'est ça. Et leurs voix ne devront d'ailleurs pas non plus être entendues depuis l'extérieur de leur habitation. Ok.
Donc elles vont murmurer tout le temps. C'est un peu l'idée qu'on leur impose. Quoi.
C'est absolument ça, en fait. Hein. Donc, les talibans, en fait, ne veulent ni plus les voir, ni plus les entendre. Bref, les femmes doivent disparaître et ils le font, les déshumanisant au maximum. Parce que quand même, la parole, ou en tout cas la communication entre êtres humains, même si elle ne se fait pas forcément par la parole pour tout le monde, en fait, au sens large, quand même, c'est quand même la base de l'humanité. Enfin, je veux dire, échanger avec l'autre, parler, se parler. Enfin,
on est des animaux sociaux, hein. Donc,
oui, c'est ça.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de la pluie, du beau temps. C'est quand on rencontre des gens qu'on connaît pas, on dit oh, ouais, il fait beau aujourd'hui.
C'est vrai. C'est vrai. Les talibans, donc, adulent une chose qui n'existe pas, et ni pourtant en même temps. Pas pourtant, mais en tout cas, ça va ensemble. Et ni l'humanité, en fait, à la moitié de l'humanité. Hein. Bien réelle, elle, cette moitié d'humanité. Et ce n'est pas neuf, et pourtant, on a toujours du mal à y croire, tellement tout ça sort, en fait, de toute logique, de toute pensée sensée, en fait. Enfin, comment on peut... ils y arrivent, quoi. Mais les croyances et leurs utilisations à des fins politiques dépassent évidemment très souvent, justement, cette logique qu'on pourrait peut-être dire matérialiste, si on oserait. Donc voilà. Alors, le voile noir ne me cache pas. Mon visage découvert ne me dénude pas. Comme le soleil, je brille derrière le rideau. Et les ténèbres ne sauraient me faire masque. Si ces pieux croyants n'avaient pas une foi faible, ils n'auraient pas besoin de me couvrir ainsi. Toi qui viens du droit chemin des vertus, comment perds-tu le nord en voyant mes cheveux? Qu'ai-je à faire d'un donneur de leçons faussaire? Pourquoi porterais-je sur ma tête le poids de tes faiblesses? Mais où est la justice en cette décision? Que toi, tu sois pécheur et moi je vive en enfer. Au lieu de voiler mon visage, ô conseiller malvenu, je jette un voile sur tes pulsions coupables. Ça, c'était donc un poème de Bahar Saïd, et le titre c'est Rideau. Et donc, d'autres règles, je continue, d'autres règles incluent des interdictions sur l'homosexualité, on n'en attendait pas mieux, sur l'adultère aussi, sur les jeux d'argent. Elles interdisent aussi aux hommes de se battre. Mais eux ont le droit de fouetter, de lapider et de tuer, c'est marrant. Ou aussi de désobéir à leurs parents. C'est vraiment. Voilà. Ainsi que il est interdit.
Ça, le désobéir à leurs parents, c'est pour revenir en fait au mariage forcé. C'est en fait la notion qui est derrière, c'est ça. C'est parce qu'en fait, il y avait une émancipation qui se mettait en place, notamment des jeunes qui disaient tu ne choisiras pas mon épouse ou mon époux. Et donc, ne plus désobéir aux parents, ça revient en fait au mariage forcé. Et voilà, on y revient, quoi, doucement.
Ouais, c'est ça. Il est aussi interdit de créer et de regarder des images d'êtres vivants sur un ordinateur ou un téléphone. Hein. Voilà, oui. Voilà. Alors, ce qui veut dire, pour les médias, en fait, la loi, elle stipule qu'ils ne doivent pas publier, je cite, de contenu hostile à la charia et à la religion, qui humilie les musulmans, ou, je cite encore, qui montre des êtres vivants. Voilà.
Ça va être compliqué. Enfin, pardon, mais je vous dis, mais ça va être compliqué.
Bah, ça veut juste dire ils vont fermer plein de médias et
oui,
ça.
Oui, c'est ça. C'est non, mais
il en reste déjà pas forcément beaucoup.
Oui, c'est clair. Oui.
Moi, j'ai cherché pas mal d'infos sur des médias en fait de personnes exilées parce que c'est le seul moyen en fait de pouvoir encore faire circuler de l'info et en tout cas qui va contre les talibans et donc contre tout, tout ce qu'ils ouais. représentent. Donc voilà. Et on peut se dire, oui, effectivement, hein, ces adorateurs de Dieu en ont vraiment une détestation des êtres humains. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ils détestent l'humanité. Et j'ai envie de dire, mais s'ils détestent autant l'humanité, pourquoi emmener tout le monde avec eux? Je veux dire, ils ont des armes, ils ont des hautes montagnes qui sautent. Mais vraiment, sautez dans le vide, les gars. Allez-y, rejoignez votre Dieu et arrêtez de...
Ah, le suicide, c'est interdit.
Ah ouais, merde. Bon, bah...
c'est écrit.
Ils peuvent pas s'auto-tuer les uns les autres. Enfin, faire un truc comme ça, un grand cercle.
Il faut accuser l'autre d'avoir blasphémé, c'est un truc un peu compliqué.
Non, mais c'est terrible. Mais c'est parce que, enfin, vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont leur névrose et ils sont obligés d'emmener toute l'humanité, en tout cas, surtout les femmes et les petites filles, avec, en fait. Non, mais démerdez-vous avec vos délires, quoi.
Il faudrait quand même rappeler que d'abord, l'Afghanistan, c'est pas un pays pauvre, contrairement à l'idée qu'on s'en fait. C'est un pays qui a des richesses. C'est pas un pays petit, c'est très grand l'Afghanistan. Et c'est un pays extrêmement peuplé. Et qu'en fait, en réalité, on a l'impression comme ça, parce que moi je vois la façon dont c'est traité dans les médias, on nous montre toujours 2-3 images. Et on pourrait avoir l'idée que en fait tout ce que font les talibans ça s'appliquerait dans 3 villages de montagne et voilà. En fait, c'est pas du tout ça. C'est là aujourd'hui, on est dans un système qui ressemble un peu à ce que la révolution iranienne avait donné avec les gardiens de la révolution. C'est un système où il y a énormément de talibans partout, armés dans les rues, dans plein de villages, dans plein d'endroits, avec une surveillance accrue. On va quand même rappeler que les talibans se sont alliés à la Chine pour récupérer notamment les outils de vidéosurveillance. C'est marrant parce que on peut pas faire d'image du vivant, mais on peut faire de la vidéosurveillance.
Oui.
Ouais, c'est un truc là, ça m'échappe moi. Mais bon, il y a voilà.
C'est bien ça, c'est la logique.
Voilà. Donc, mais je vous rappelle, c'était il y a un an de ça en fait, où ils avaient commandé à la Chine des outils de vidéosurveillance, de reconnaissance faciale, tout ça. Donc en fait, on voit quand même qu'il y a une vraie emprise totalitaire et que c'est pas régional comme on essaie de nous le faire croire, c'est pas juste dans les régions reculées d'Afghanistan, c'est partout. Mmh. Et c'est d'une violence absolue, c'est-à-dire qu'en fait, la délation est encouragée, on fait avouer des gens sous la torture, donc on sait bien que quand les gens avouent sous la torture, ils disent n'importe quoi parce qu'ils ont juste envie de vivre, quoi. La torture est généralisée. Enfin, il y a des ONG et des journalistes afghans qui arrivent encore un peu à travailler sous couverture, qui l'ont démontré. Donc en fait, on n'est pas juste dans un folklore comme certains essayent de nous le vendre en disant ah oh bah oui mais chez eux c'est comme ça. Il faut se rappeler aussi que l'Afghanistan c'est pas du tout les talibans quoi. Les talibans c'est un truc qui s'est imposé, c'est un courant fascisto-religieux qui s'est imposé dans un pays qui historiquement était plutôt un pays où les gens se croisaient, d'ouverture, où
oui,
il y avait des marchands.
Oui,
où,
et de ce que j'ai lu, il était plutôt de tendance soufiste en
oui,
fait.
Oui, tout à fait, qui était un pays en plus où il y avait une très très forte culture de la musique, de la chanson, de la poésie.
La poésie, ouais.
Et donc en fait, c'est fait vraiment, enfin c'est vraiment en fait les talibans, c'est la négation totale de l'histoire de l'Afghanistan. Il y a pas d'autre mot.
En même temps, qu'une histoire, c'est celle du livre en fait.
Oui, c'est ça. Et en fait, moi, ce qui commence un peu à me crisper, c'est d'ailleurs un de voir qu'on en parle si peu en France, et moi, ça me fait mal parce que je me dis en fait à un moment donné, mais qu'est-ce qu'il faut que des hommes imposent à des femmes pour que on se réveille à se dire c'est pas acceptable, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ou vraiment en fait à un moment donné au moins on en parle quoi, je sais pas. On est dans une espèce on est dans une espèce de campagne en ce moment. Vous savez, on voit des responsables politiques de partout parce que tout le monde veut aller prendre sa part du gâteau. Voilà. Donc c'est bien, hein, voilà. Donc on voit Lucie Castet, on voit cet Ondelier, on voit le mec du PCF dont j'ai perdu le nom, on voit Mélenchon partout. C'est très bien, mais il y en a pas un. Et je parle de la gauche, hein, parce que j'ai pas envie de parler de la droite. J'ai pas demandé à la droite de faire le boulot humaniste. Il y en a pas un qui a eu un mot là-dessus. Pas un. Et moi, en fait, à un moment donné, je me dis, mais ces personnes-là, elles veulent, à un moment donné, aussi agir à l'international. Quand on prend la tête d'un État, Et ben en fait, on agit à l'international. C'est quoi leur putain de position? Pardon pour l'expression, mais c'est quoi leur position en fait? C'est quoi? Ils pensent quoi de ce qui se passe là-bas? Et moi, ça m'inquiète parce que je me dis, mais mettre sous le tapis ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la moitié de la population d'un pays à qui on retire le droit d'exister complètement. Parce que là, on en est là, quoi.
Ah bah oui, oui, voilà.
Et n'avoir aucun soutien, mais ne serait-ce qu'une phrase, au moins dire. Et je voulais vous parler de ce qui se passe en Afghanistan, c'est inadmissible, machin. Vous savez, ils font des interviews à tour de bras. Alors, ils nous parlent de leur goût, de machin, du fait qu'ils ont un chien, de machin. On s'en fout complètement, mais j'ai vu une interview il y a pas très longtemps où on demande à Mélenchon s'il a un animal domestique. Mais qu'est-ce qu'on en a à taper, quoi? Par contre, non, ils s'assaisissent pas, eux, de la tribune qu'ils ont pour dire, voilà ce qui se passe là-bas. Et vous voyez ce que je veux dire? Et ce silence, il est terrible. Parce qu'encore une fois, c'est ce silence qui permet, par exemple, aujourd'hui, à l'Allemagne de réexpulser des Afghans vers l'Afghanistan. Ça. C'est ce silence-là qui permet ça. Parce qu'en fait, on est en train de dire c'est normal chez eux. Sauf que non, putain. Mais pardon, excusez-moi, je suis vulgaire ce que je
veux dire. Mais parce qu'en fait, tous ces gens-là, déjà, en ce moment, ils ont une seule occupation, c'est leur ego et leur accession au pouvoir.
Ouais, ouais, mais je sais.
Et que tant que, en fait, tous les gens qui, hein, peuvent avoir tendance à faire la leçon à ceux qui ne veulent pas suivre leur petit chef. Eh ben, en fait, interrogez-vous, en fait. Quand pendant 4 mois, 6 mois, vos politicards que vous voulez qui aient le pouvoir nous parlent plus de leur accession au pouvoir que d'humanité et d'international,
c'est ça, moi, ça,
eh ben, en fait, je pense que faut remettre en question vos pensées politiques, en fait.
Mais tout ça pour dire qu'il y a un silence autour de l'Afghanistan, autour du Soudan, autour de plein d'endroits dans le monde, en fait, aujourd'hui, mais qui sont juste inadmissibles. Parce que quand on en est là, en fait, on normalise. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, eh ben, on dit, bah ouais, non, pour eux, c'est normal. Mais non, en fait, il y a un moment donné. Et moi, je le redis, aujourd'hui, l'Allemagne, elle réexpulse vers l'Afghanistan. Je sais qu'en France, c'est sur la table. Il y a un moment donné, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire de renvoyer des gens qui ont fui les talibans en Afghanistan. Ils sont morts, c'est les condamnés à mort, en fait, il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, à un moment donné, on est là à se dire, ouais, mais c'est normal, quoi. Enfin,
mais non. Mais là aussi, en fait, c'est parce que finalement, quand une société...
Je parle même pas des femmes qu'on veut renvoyer en Afghanistan, parce qu'il y a des femmes qu'on renvoie là-bas.
Quand tu as une partie de ces gens-là qui n'ont pour obsession que d'avoir le pouvoir. Quand ça se passe dans un pays qui vire de plus en plus à droite, et on a en Europe quasiment partout, là ce soir les résultats en Allemagne sont tombés, l'AFD est devant dans quasiment toutes les régions où elle s'est présentée, la gauche elle n'a plus que comme seule idée et solution de courir après la droite et l'extrême droite,
ouais,
en fait.
C'est triste, hein.
Et que donc, en fait, finalement, même s'ils ne se l'assument pas, garder le silence sur des thématiques aussi fortes, c'est finalement asseoir les populos, les fachos et les réactionnaires dans leur logique qui semblerait être juste, en fait.
Alors, comment on va encore m'accuser de râler et de ne pas dire quelle serait ma solution? Parce que c'est souvent ce qu'on me dit après.
C'est vrai?
Ouais, on m'a dit tu râles, mais toi tu... Alors, je vais vous dire, moi, ce que je pense, sincèrement. Je pense, en fait, qu'on peut partager l'espace et qu'en fait, s'il y a besoin d'avoir des gens qui ont besoin de se réfugier, on peut les accueillir. Ça s'appelle des réfugiés. Oui. C'est-à-dire des gens à qui on offre un refuge. Voilà. Et donc, en fait, à un moment donné, bah oui, peut-être faudra qu'on serre un peu plus. Peut-être qu'il faudra qu'on divise les richesses autrement. Peut-être qu'il va falloir qu'on pense autrement les choses. Mais ça s'appelle juste et ben en fait être internationaliste et humaniste. Et je ne veux pas que les gens quittent tous leur nation ou autre, parce qu'ils n'ont pas tous les moyens, donc il faudra aussi lutter contre les talibans. Et lutter contre les talibans, c'est aussi les montrer du doigt, c'est aussi dire ce qu'ils sont, et arrêter un peu de tourner autour du pot, de dire, ah oui, mais quand même, il y a des réserves dans les sous-sols afghans, on va en avoir besoin, donc on va les renormaliser à l'ONU, puis on va aller après discuter avec eux, parce que quand même, en discutant, ça va changer la société. C'est pas vrai. En fait, il faut surtout pas leur donner de poids.
Non, mais là aussi, quand t'as un grand leader de gauche, le grand leader de gauche, qui est un adorateur des Maduro, qui n'avait pas beaucoup de problèmes contre l'autoritarisme d'un Poutine, ben j'ai envie de te dire, moi, j'attends plus grand-chose de tout ça, en fait.
Moi, le problème, c'est que je m'adresse pas aux politiques, là, je m'adresse aux gens qui les soutiennent.
Mais justement,
il faut, en fait, à un moment donné... Réaffirmer
en fait
des choses, voilà, remettre de l'éthique. Et voilà.
Même
pardon,
face à
je fais une sortie qui était complètement lunaire, mais pardon.
Non, mais même face à vos dirigeants ou à ceux que vous aimez et que vous adulez, et ben en fait, si vous perdez votre esprit critique, même face à eux, ben en fait, vous êtes comme ceux qui sont déjà au pouvoir aujourd'hui et qui perdent toute critique
face à leur chef. Il faut aujourd'hui être aux côtés des femmes afghanes. Il faut parler, il faut crier, il faut dire, parce qu'en fait, elles ne peuvent plus le faire. Oui, voilà.
C'est exactement
et qu'en
ça,
fait, à un moment, il faut soutenir les Afghanes qui sont partis, qui ont fui pour souvent fuir la mort. Et il faut les aider. Il faut aider les activistes. Il faut pas. On parle des réseaux sociaux. Partagez sur vos réseaux sociaux ce que les activistes afghanes faites connaître ce qui se passe en fait. C'est important.
Voilà.
Et ne taisez pas les choses.
Et en vous intéressant à ça, en lisant même des articles qui sont faits par des gens en exil, etc., vous vous rendrez compte que même en exil, en Afghanistan, en fait, il existe des gens qui sont pas pour les talibans. Donc arrêtons.
À la majorité, je pense.
Mais bien sûr, mais c'est juste pour rebondir sur ton truc de le différentialisme de ouais, mais chez eux, c'est comme ça. Il y a des militants progressistes, de gauche, etc.
Il y a même des anars en Afghanistan.
Mais ouais, c'est fou ça.
On en code.
Qui refusent en fait ça. Donc arrêtons ce différentialisme et portons nos valeurs et notre éthique tout le temps, en fait, quoi. Bref, reviens quand même à mon sujet. Dans leur grande mesure, qui est quand même très synonyme de taliban, mesure taliban, ont prévu dans leur loi des peines graduées, évidemment, pour le non-respect de toutes leurs nouvelles lois.
Donc, ils font preuve de mansuétude.
Oui, c'est ça. Ça va des avertissements oraux à des menaces, à des amendes, aussi à des arrestations allant d'une heure à trois jours ou autres peines demandées par la police des mœurs. C'est ça qu'on aime. On se dit. Donc en fait ils ont un peu open bar quoi. La
c'est
police des mœurs fait ce qu'elle veut quoi.
C'est ça.
Ben oui en même temps.
Ben, c'est la même chose que les gardiens de la révolution en Iran. C'est pour ça que je faisais le parallèle.
C'est exactement ça. Et donc les infractions par contre répétées, elles entraîneront le renvoi devant des tribunaux religieux. Et là, on peut se dire, waouh, ça c'est super encore. Enfin bref, qu'on ne se mente pas, on sait très bien que tout ce que les Afghans et les Afghanes ont pu connaître dans la précédente présence des talibans au pouvoir est de retour. Il n'y avait pas à en douter.
Oui, mais ils le font différemment.
Oui, oui.
Parce qu'ils ont compris qu'il fallait que ça se voit moins,
oui.
Que ce soit fait plus lentement, que ce soit fait à certains moments.
Oui.
Parce qu'il y a quand même, moi j'ai vu une activiste qui dit, ils ont attendu les Jeux Olympiques pour faire ça. C'est le moment où tout le monde a le regard ailleurs, comme d'autres ont attendu les Jeux Olympiques pour bombarder des villes, comme d'autres, voilà, et on le sait, et donc en fait voilà, mais on sait que militairement ou d'un point de vue de la violence d'État, en fait, on a une tendance en fait à attendre le moment de le faire, et moi j'ai vu cet activiste qui disait, ils ont vraiment attendu le moment où tout le monde avait les yeux sur Paris, et c'est son expression, pour faire ça. Et en fait, ça a presque pas été mis dans la presse.
Ah, mais ne jamais minimiser les capacités de nos ennemis, même si ce sont des raclures, à avoir une réflexion de propagande, enfin, je sais pas comment on peut dire.
Non, mais c'est sûr. Ouais,
c'est, il faut absolument jamais minimiser ça. Hein, ou alors, on se croit déjà très au-dessus des autres. Et pour autant, j'aime les appeler des raclures parce que c'est ce qu'ils sont. Des coups de fouet, donc évidemment, aux lapidations, tout ça en passant par les amputations et bien sûr les mises à mort. Enfin bref, les talibans n'ont pas changé, même s'ils sont de 2023, enfin 2021, ils ont pris le pouvoir. Leur idéologie n'a pas changé, mais effectivement, la mise en place de tout ça est différente.
Plus réfléchie d'un point de vue cynique.
Ouais, c'est exactement ça. Alors continuons, comme tu le disais, de suivre l'actualité de ce côté-ci du globe. Continuons de porter les voix que les talibans veulent faire taire et de montrer que ce pays n'a pas toujours été l'émirat islamique que ces raclures construisent dans leur roman national et religieux. Et c'est aussi la raison de mes lectures qui ont entrecoupé ce sujet, parce que justement c'est absolument important quoi. Et ben donc
tu repars sur un dernier poème.
C'est tout à fait ça. Loin de toi, mon corps est tellement enfiévré qu'au nectar de ta bouche, tout mon être est rivé. Je crains que tu n'arrives trop tard, quand mon corps en désir de toi aura brûlé. Dès que je mets ma bouche dans ta bouche, dans l'espoir du breuvage qui saura m'apaiser, la jouissance pure que donnent tes baisers me submerge et m'emporte. Rends mes lèvres, pitié. Dès l'instant où tes lèvres appelèrent mes lèvres et me firent connaître le plaisir des baisers, dès que je t'ai goûté, le sauras-tu jamais, de cette jouissance je fus comme obsédé. Si je peux dérober ton corps à ta vêture, je viendrai en voleuse tout le long de ton cou, je poserai goulu mes lèvres sur ton torse, j'engloutirai ton cœur à force de baiser. Si je viens une nuit me lever contre toi, sur tes lèvres humides, si je pose les miennes, je serrerai si fort mon corps contre le tien, que mon image en toi sera comme imprimée. C'était donc un poème de Bahar Saïd, et le titre c'est « Chanson ». Là encore une fois, justement, c'était aussi pour démontrer que oui, en fait, l'Afghanistan n'a pas toujours été cet empire, cette comment ils appellent ça, émirat islamique que les talibans fantasment. Et c'est pour ça que je parlais de roman national et religieux, parce que ces personnes-là falsifient l'histoire, falsifient tout ce qui est les populations qui vivent dans ces pays-là, en fait. Et ça, on le sait. Toujours les fascistes, quels qu'ils soient, de quelque obédience ils soient, ont pour passion d'effacer l'histoire, d'effacer, de réécrire toutes ces choses-là.
Oui, tout à fait.
Et il est important de donner vie justement à toutes ces choses-là qui étaient là avant eux. Et là, c'est par de la poésie, mais il y a plein d'autres moyens de faire exister cette réalité-là, qui est aussi une part de la réalité. Voilà. J'arrête de m'exciter.
Non, c'est moi qui ai été le plus. J'avoue, et pardon pour les auditeurs et les auditeurs, parce que j'ai pas forcément été toujours très clair. Mais en tout cas, oui, c'est un sujet qui me tient à cœur et qui me déchire le cœur. Je vais le dire avec mes mots.
Ouais. On passe à la ZIC.
Ouais.
Allez. Seconde de ce tout nouveau titre et absolument magnifique de notre bien chère aimée Brigitte Fontaine, qui en tout cas moi m'a pris par surprise absolument. Ouais. Quand d'un coup j'ai vu.
Bah, d'un coup j'ai dit, tiens, j'ai fait un nouvel album.
C'est exactement
à
ça.
À 84 ans, j'avais envie.
C'est vraiment magnifique. Donc ce titre, c'est Cantilène, donc de Brigitte Fontaine, et un album est prévu, je crois, à l'automne, si je
me... Octobre, il me semble.
Ouais, c'est ouais. Ça, à l'automne. Donc, si je ne me trompe pas, et il est juste beau, la musique est belle et le texte est absolument magnifique.
Une antithèse aux talibans dont tu parlais.
C'est exactement ça. Et je voulais donc préciser quand même que les poèmes que je vous ai lus, ou en tout cas que j'ai tenté de vous lire, sont issus de Le cri des femmes afghanes. C'est une anthologie de poésie afghane écrite par des Afghanes et uniquement des Afghanes. C'est aux éditions Bruno Doucet. Alors pourquoi le cri c'est parce que en fait Afghan ça veut dire aussi cri. Alors ça veut dire qui est relatif à l'Afghanistan, ouais. Et ça veut aussi dire le cri. Et c'est aussi pour ça que je crois dans un des... Non, c'est peut-être pas, je sais plus si je vous l'ai lu, mais il y a justement sur un cri étouffé, c'est un jeu de mots, il y a un truc autour de tout ça. Donc voilà, donc c'est le cri des femmes afghanes aux éditions Bruno Doucet, un moyen de faire exister la culture afghane avant que les fascistes religieux n'effacent absolument tout. Voilà.
Ben oui.
Voilà. Et Fab, tu as une petite brève avant qu'on se quitte.
Oui, alors excusez-moi parce que j'ai aussi de l'eau sur mes lunettes.
Mais de vie.
Bah, t'as qu'à mettre Brigitte
ah, mais,
Fontaine.
Non, c'est alors c'était même pas Brigitte, d'accord, mais quand pardon. Même, oui.
C'est dur ce soir. Hein. Ouh là, là,
oui,
c'est dur.
C'est très très dur.
Alors, juste, il y a donc une brève. Les samedis 7 et dimanche 8 septembre prochain, il y a un rendez-vous pour une soirée de soutien et une marche en mémoire d'Idir, qui est mort à la maison d'arrêt de Corba le 9 septembre 2020. Donc, il est décédé au Mitard, hein, c'est un quartier disciplinaire pour ceux qui ne connaissent pas, de la maison d'arrêt de Lyon-Corba, dans des circonstances plus que douteuses. Je vous rappelle que la famille, elle n'a pas eu tout de suite accès à plein de choses, hein, comme d'habitude quand les gens meurent en prison. Il y a beaucoup de suspicions de maltraitance au sein de la prison de Corba. Voilà. Donc depuis ce jour, hein, sa famille se bat pour obtenir la vérité. Donc pour les soutenir dans leur combat, il y a deux rendez-vous. Donc samedi 7 septembre à 18h à l'annexe de l'ECG, donc c'est 27 rue Salomon Reynac dans le 7e, pour une soirée de soutien au collectif Idir Espoir et Solidarité. Donc il y aura des projections sur le thème des violences policières et des violences pénitentiaires, pardon, des prises de parole, un couscous à prix libre, un infokiosque et des affiches à prix libre. Tout l'argent récolté ira évidemment au collectif Idir Espoir et Solidarité. Et le dimanche 8 septembre, il y a un appel pour une marche à 14h place Bellecour, pour une marche en mémoire d'Idir. Voilà. Donc parfois, enfin, je sais pas comment dire ça, mais on a beaucoup en ce moment de gens qu'on voit réclamer plus de répression, plus de prison. On a même des veuves, malheureusement, et c'est terrible pour elles, de gendarmes qui en appellent à leur retour de la peine de mort. Et ça passe un peu crème. Voilà,
dans le
climat actuel, bah faut rappeler que la prison, d'abord la prison c'est violent, priver quelqu'un de sa liberté c'est assez terrible, la prison elle tue toujours, et y compris en France, ce qui se passe derrière les murs des tôles, bah en fait c'est tue. On ne sait pas, on ne veut pas savoir, on
très
ne veut pas voir
sur ce qui se passe à l'intérieur.
Que toutes les prisons quasiment françaises sont surpeuplées, c'est-à-dire qu'on met plus de détenus que de volume possible, de volume de personnes possible, donc ça crée des situations déplorables d'hygiène, déplorables de vie, déplorables de violence aussi, parce que bah oui, quand on est tous les uns sur les autres, on est moins calme et moins serein que quand on a des espaces suffisants. Et en fait, bah, tout ça, on le met vraiment sous le tapis depuis des années. Et à chaque nouvelle loi où on met des peines de prison, on crée une situation où on remet encore de la souffrance sur la souffrance, du mal sur le mal, comme on dit. Voilà, il faut une vraie réflexion sur la prison, sur ce que c'est, sur à quoi ça sert, sur pourquoi on veut envoyer les gens en prison. Je rappelle juste comme ça, parce que c'est un peu un truc effarant, mais qu'aujourd'hui, on estime 35% de prisonniers qui sont en prison pour des choses mais totalement superflues, du genre avoir 10 grammes de shit sur soi ou des choses comme ça, et où on met en prison parce qu'il faut faire des exemples. Et en fait, une société qui a besoin de faire peur et de faire des exemples, c'est une société qui va mal, et on ne cessera jamais de le dire. Et voilà, ben il y avait un vieux slogan anarchiste qui disait feu à toutes les prisons. Il y a même un Victor Hugo que tout le monde aime bien, que je suis pas forcément le mec dont je suis le plus fan, mais qui même lui disait que la prison était odieuse et qu'il fallait penser autrement les choses. Voilà, il faut à un moment donné se poser des questions. Et voilà, notre pensée pour la causerie va bien sûr évidemment à la famille Didier et de tous ceux et toutes celles qui ont perdu des proches en prison. Voilà. Donc on vous a donné l'info, et si vous êtes dans le coin et que vous avez envie d'aider, d'y aller, ben n'hésitez pas. Voilà.
Et ben voilà. Et ben nous, on va bientôt se quitter. On va se quitter évidemment en musique. qui a commencé avant.
Moi, tu fais des teasers, toi.
Non, pas du tout, je gère juste mal la technique.
Et donc, c'était ça.
Avant qu'on se quitte, quand même, quelques rappels, évidemment.
Je peux les faire, si tu veux.
Comme tu le sens.
Allez, bah, moi, j'y vais. Okay. Donc, si vous voulez nous écrire, c'est lacausericanu@gmail.com. Et je m'arrête là, tout de suite. Parce que la musique qu'on va passer... Et tu vas donner le titre.
Et tu veux pas donner les blogs
Si, je vais le faire okay. après. Le titre de la personne qui a écrit la musique et le titre.
C'est Forêt et l'ami de la famille.
Voilà. Il nous a écrit à lacausericanu@gmail.com et il nous a envoyé son titre. Et en fait, on s'est dit, il faut qu'on le passe et on s'excuse auprès de lui parce qu'on l'a oublié. Enfin, on a oublié de le passer, tout simplement. Et puis, il nous est revenu en tête parce que c'est, vous verrez, c'est un titre fort. Et qui est très beau. Et on s'est dit, ben voilà, ben aujourd'hui, on va le passer, on va réparer cette erreur, cet oubli. Donc, ben, si vous êtes des jeunes créateurs de musique et que, voilà, on ne passe que ce qu'on aime, hein, je vous précise, parce que on va pas non plus vous garantir que si vous écrivez, on va le passer. Mais en tout cas, voilà, ben, c'est aussi vous n'avez pas forcément besoin de envoyez-nous vos titres, dites-nous, ben voilà, j'ai fait ça. Ça peut peut-être vous intéresser parce que vous connaissez l'émission ou parce que vous avez vu qu'on a parlé de certains sujets ou autres. Et donc, du coup, ben, n'hésitez pas, c'est ce que ça sert à ça. Donc lacausericanu@gmail.com et voilà, c'est un lien entre vous et nous, il nous fait plaisir. Et je te laisse continuer sur les blogs et tout.
Ouais, et ben le blog, hein, c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie. Sinon vous tapez la causerie Radio Canu et vous trouverez évidemment le blog. Et si vous tapez ce mot-là, vous trouverez certainement aussi la causerie sur un réseau socio-commercial. Et ça marche aussi, c'est fou la technologie, sur les plateformes d'écoute musicale, etc. et de podcast. Vous trouverez évidemment la causerie avec son petit logo normalement reconnaissable. Si vous ne le voyez pas, c'est que ce n'est pas nous.
Alors, on a un tout petit souci technique en ce moment au niveau de Radio Canu, qui fait qu'on n'a pas pu mettre l'émission de la semaine dernière en ligne et qu'on pourra peut-être pas mettre celle-là tout de suite en ligne. On prépare quand même les blogs, hein, donc vous pourrez retrouver ce qu'on a dit dans l'émission. Mais par contre, pour retrouver les émissions, ça va prendre un tout petit peu de temps, c'est l'autogestion et c'est comme ça. Et Radio Canu, ben on n'a pas de salariés et c'est pas toujours facile. Et on remercie les copains qui s'occupent de l'informatique parce qu'on sait qu'ils sont sur le coup et que c'est pas facile pour eux et qu'il faut qu'ils trouvent une solution, mais qu'ils vont la trouver parce qu'on les connaît. Ils trouvent toujours des solutions. Ils ont quand même réussi à nous faire faire de la radio pendant le Covid à distance, donc je suis sûr qu'ils trouveront une solution pour ça aussi.
Oui, c'est juste qu'on n'arrive pas à télécharger le fichier sonore, donc
on peut pas
ils
le
arriveront dès qu'on le pourra.
Et donc voilà, dès qu'on peut, on les partagera sur le réseau Facebook et puis sinon on essaiera de faire savoir dans l'émission quand tout sera revenu en ordre, mais en tout cas ne vous inquiétez pas, ils seront disponibles rapidement, voilà.
Si vous deviez vous inquiéter genre les gens s'inquiètent parce qu'ils nous entendent pas.
Mais moi j'imaginais déjà des gens qui disaient mais il n'y a pas la causerie, mais comment c'est possible, tu sais, non, mais, ah non non, mais moi je suis sûr qu'il y a des millions de personnes qui attendent le fichier hein.
Tout à fait. Donc on va se quitter en musique avec justement, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, c'est avec le titre L'ami de la famille. L'artiste c'est Forêt.
Xavier Forêt.
F-O-R-A-Y. Ouais. Pour que vous puissiez le retrouver.
Xavier Forêt de son prénom.
Si ça vous plaît. Et nous, on vous donne rendez-vous donc dimanche prochain, évidemment, à partir de 22h sur l'antenne de Radio Canu. Normalement, équipe au complet. Donc la technique devrait être meilleure. Vos oreilles n'en seront que plus.
Ça, on n'en doute pas.
Donc voilà, on vous souhaite une bonne semaine. Bon courage à vous toutes et tous. Et puis à dimanche prochain.
Allez, à dimanche prochain, des bisous.
Ciao.
Salut.
Mais devine qui voilà. Tu n'en reviendras pas. Il a fait. peut-être, mais tu vas le reconnaître, le copain de papa qui fait du cinéma. T'as prié pour qu'il soit mort.